No sé.
Bonsoir. Merci de votre présence pour la 126e conférence Pôle Info Santé organisée par le CHU et l'Espace Mendès France. Depuis 1993, elles sont organisées déjà. Il y en a qui viennent pour la première fois. Oui. Il y en a qui sont venus à chaque fois pour les 126e, 126. Vous êtes là depuis le début ? Ah, bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Ça vous plaît. Alors aujourd'hui, on va faire une proposition, une formule un peu particulière qui a déjà été faite deux fois, je crois, mais qui est assez rare. Vous avez des petits cartons verts et orange sur vos chaises. Et vous allez pouvoir répondre à des questions au fur et à mesure que nos intervenants vont les poser. Donc en gros, le petit carton vert, c'est plutôt pour les questions vraies ou oui, mais il y a d'autres types de réponses. Et le carton orange, serait plutôt pour les réponses non, faux, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais vous présenter, en fait, chaque intervenant va faire sa petite conférence avec les petites questions, et vous répondez au fur et à mesure. Et à la fin, vous pourrez poser vous-même d'autres questions, à l'écrit ou à l'oral, enfin plutôt à l'oral, mais à l'écrit si vous le souhaitez. Vous me donnerez les petits papiers et moi je pourrai relayer vos questions. Alors, les intervenants du jour. Donc nous avons le professeur Pascal Roblot, professeur d'université, praticien hospitalier au sein du service de médecine interne au CHU de Poitiers. Dites-moi si je me trompe. Hein. Le professeur Antoine Dupuis, professeur d'université en pharmacie clinique à la faculté de médecine et pharmacie de Poitiers. Le docteur Maxime Jonchier, responsable médical des urgences au CHU de Poitiers. Après, je vous retrouve à la fin, moi, pour donc poser les questions. Je crois que je vais vous laisser la parole directement. Qui commence ?
Je vais commencer.
Allez-y.
Bonjour à tous. Donc, on vous a préparé effectivement un mode de quiz pour avoir de l'interaction avec vous. Et on va aborder les différents points de l'automédication à travers, effectivement, ce quiz. Pour commencer, assez simplement, on va sonder cette salle pour savoir, quand vous vous sentez malade, si vous prenez des médicaments avant de consulter le médecin, vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc oui, le carton vert, non, pour ce carton. Oui, donc finalement une grande majorité d'entre vous, on peut le dire, a recours à l'automédication. Hein. C'est un peu cette image. Et du coup, je vais essayer de donner une image un peu plus large que l'auditoire aujourd'hui, mais sur un panel de Français. D'après vous, combien de Français déclarent avoir recours à l'automédication récemment ? À 5 sur 10, donc à peu près un Français sur 2, ou 8 sur 10, grande majorité de Français, plutôt 8 sur 10, plutôt 5 sur 10 déclarent avoir recours à l'automédication. Donc une grande majorité d'entre vous pensent que c'est plutôt 8 sur 10. 8 sur 10, c'est bien. Effectivement, c'est beaucoup, hein, et c'est la grande majorité des Français déclare avoir recours à l'automédication. C'est des données assez récentes, hein, de 2019, à travers un panel représentatif. Et vous voyez ici que dans cet sondage, il y avait d'autres points qui ont été mis en avance, notamment cette notion que grande majorité de Français ont recours à l'automédication, qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui ont recours à l'automédication, mais on ne peut pas considérer que c'est très significatif. C'est 85% de femmes, 75% d'hommes. C'est principalement individuellement, moins pour la famille que les gens ont recours à l'automédication. Il y a une petite tendance à avoir plus d'automédication dans les grandes villes. Et puis, on voit un effet saisonnier dans l'automédication. Effectivement, on voit que les périodes hivernales, notamment, les gens ont plus tendance à avoir recours à l'automédication. On comprend peut-être un peu pourquoi. Alors, à côté de ces chiffres, il y a d'autres données. Et du coup, je voudrais vous interroger sur, à votre avis, les Français sont-ils des gros consommateurs de médicaments en automédication ? Est-ce que c'est des gros consommateurs de médicaments de l'automédication ? Oui, vous pensez qu'ils consomment beaucoup de ces médicaments qui sont à proposer pour l'automédication. Ouais, en fait, les Français sont des gros consommateurs de médicaments, de façon générale. Ça, c'est une donnée qu'on a assez. Mais quand on compare aux autres pays européens, eh bien, la part de médicaments à consommer par les Français en automédication est plus faible comparée aux autres pays européens. En fait, dans ces données, ce qui se cache, c'est que en France, on utilise très souvent en automédication des médicaments qui ont déjà été prescrits et qui se retrouvent dans l'armoire en pharmacie et qu'on réutilise dans des situations plus ou moins, on y reviendra peut-être, idéales. Mais finalement, on a peu recours à l'automédication au sens d'aller voir son pharmacien ou d'aller voir son médecin pour avoir un conseil et acheter un médicament qui serait là vraiment utilisé dans le cadre de l'automédication. C'est ce que montrent ces chiffres, pardon, où on voit que finalement beaucoup de Français font appel à l'automédication, mais très certainement beaucoup sur la réutilisation de médicaments de prescription, plutôt que de vraiment avoir recours à des médicaments qui sont faits pour ça dans le cadre d'un conseil. Voilà ce que je voulais préciser un petit peu par rapport à ça. Vous voyez que c'est un petit peu différent. Et du coup, pour vous, l'automédication, c'est plutôt bien pour certaines maladies ou c'est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est plutôt bien pour certaines maladies ou dangereux pour la santé? Votre cœur balance. C'est effectivement peut-être. On voit la réponse qui pourrait émerger à la fois vert, à la fois orange, parce que si on regarde ce même panel de Français qui a été sélectionné, vous étiez plutôt sur le côté dangereux pour la santé, mais sur le panel de Français, ce qui ressortait, que c'était bien pour certaines maladies. Donc la première réponse était plutôt c'est bien pour certaines maladies. Et effectivement, c'est ce qui émerge un peu de cette notion d'automédication et de la velléité de faire de l'automédication, c'est que pour certaines maladies, dans certaines situations, effectivement, c'est quelque chose qui est certainement quelque chose de bien, mais qui avait une part, et vous le voyez, ça arrivait en deuxième position hein, dans les réponses, il y avait une part aussi de risque, de danger. Et c'est là où on voit qu'effectivement, c'est important d'avoir finalement de l'information, de la formation, de l'éducation autour de l'automédication, pardon, puisqu'il y a ces deux facettes, c'est les deux facettes du médicament, son efficacité et sa tolérance. Et dans les réponses, il y avait aussi des notions assez intéressantes, autres vraiment très différentes, mais aussi sur la notion d'argent, c'est aussi bien pour le système de santé. Il y avait des gens qui répondaient que c'était bien pour le système de santé, l'automédication. Donc on voit que ça peut prendre des dimensions finalement très différentes, la notion de c'est bien. Allez, je voudrais sonder chez vous. Quand vous avez un mot de tête, vous prenez du Doliprane ou du paracétamol? C'est une question piège. C'est une question piège. Bah, vous pouvez répondre les deux, hein. C'est pas forcément interdit de répondre les deux. Mais vous en prenez. Donc vous automédiquez en cas de mot de tête à travers un médicament. Là, en fait, dans la réponse qui avait été proposée là encore, non, dans une enquête réalisée, vous voyez que c'est effectivement le Doliprane qui sort le plus dans cette question sur les maux de tête et qui paraît un médicament adapté. Pourquoi je vous ai interpellé sur Doliprane, paracétamol, c'est vrai que connaître le nom commercial d'un médicament et connaître sa DCI, sa dénomination commune internationale, c'est quelque chose de relativement important. Et vous voyez que dans votre panel, vous connaissez les deux, en tout cas sur ce médicament. Et on sait que c'est quand même relativement important, notamment parce que, par exemple, il faut pouvoir identifier que dans un médicament ou un autre, on a bien du paracétamol. On sait que le paracétamol, par exemple, est présent dans beaucoup de spécialités. Vous le savez, il y a beaucoup de spécialités différentes. Et même des spécialités qui peuvent comprendre du paracétamol et d'autres médicaments. Et parfois, on ne pense pas toujours que dans le médicament qu'on est en train de prendre, il y a du paracétamol. Ou alors, on a déjà d'autres médicaments qui contiennent du paracétamol dans son traitement à prescrit, par exemple. Et du coup, on va s'automédiquer avec du paracétamol et on peut, du coup, avoir des surdosages parce qu'on n'a pas bien identifié qu'il y avait la même molécule dans deux médicaments différents. Donc, c'est important de travailler sur ça et c'est des notions qu'on voit souvent. Juste pour ce Doliprane, vous prenez plutôt, quand vous avez mal à la tête, vous prenez plutôt une gélule ou deux gélules? Une gélule ou deux gélules? Ça peut être les deux. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à deux gélules. Et si ça ne marche pas, vous en reprenez? Ou vous attendez quand même? Vous attendez avant d'en reprendre. Effectivement, il y a des bons usages à travers l'utilisation des médicaments de façon générale et du paracétamol qui est quand même très fréquemment utilisé. Et dans ces notions, on sait qu'il est important de toujours commencer avec la dose la plus faible et plutôt une gélule, en tout cas pour les 500 mg, puisque vous savez qu'il y a des gélules à dosage différent, mais plutôt de commencer toujours avec les doses les plus faibles. Et puis, effectivement, de respecter les rythmes d'administration des médicaments. Et on y reviendra peut-être, mais c'est important de respecter ce rythme parce que le médicament a besoin de s'éliminer. Dans le cas du paracétamol, je suis sûr qu'on va en revenir. Il a besoin de s'éliminer. Et du coup, la distance entre les prises est aussi importante finalement que la quantité prise en une seule fois. Donc il faut respecter cet ensemble de la dose et du rythme auquel on prend les doses. Quand vous avez des maux de ventre, vous prenez quoi ? Du Spasfond ? Du Smecta ? Du Spasfond. Qu'est-ce qu'il est ? Il est populaire ce Spasfond. Du Spasfond. Plus du Spasfond que du Smecta. En fait, c'est peut-être pas sur les mêmes types de maux de ventre que vous prenez les deux. Mais c'était les deux médicaments qui ressortaient lorsqu'il y avait cette interrogation. Vous voyez que vous êtes quand même dans cette connotation sur certains médicaments. Effectivement, les deux médicaments qui ressortent beaucoup dans les maux de ventre, ce sont ce fameux Spasfond et ce Smecta qui ont quand même pas tout à fait. Il y a différents types de maux de ventre et il faut quand même identifier bien quel type de maux de ventre on pourra revenir sur ça. Moi, ce que je voulais aborder, c'est que quand vous prenez votre Smecta, même si c'est plutôt le Spasfond que vous aviez l'air de prendre, est-ce qu'il faut attendre pour prendre vos autres médicaments ou est-ce que ça n'a pas tellement d'importance et ou vaut mieux le prendre justement en même temps que les autres médicaments ? Est-ce qu'il faut attendre 2 heures, ça c'est vrai, ou non, on peut ou il faut plutôt le prendre en même temps que les autres. Donc faut-il attendre 2 heures avant de prendre un autre médicament ou faut-il les prendre en même temps ? C'est partagé, hein ? Certains d'entre vous pensent qu'il faut attendre, d'autres non. Eh bien, en fait, ces fameux Smecta qu'on prend, ça fait partie de cette grande famille, on appelle parfois les pansements digestifs, pansements gastriques. C'est une grande famille où il y a beaucoup de médicaments autres que le Smecta, mais tous ces médicaments qui ont tendance à faire des emplâtres de l'estomac, à enlever l'acidité, à protéger votre estomac de l'acidité et d'autres, parce qu'avec le Smecta, ça a d'autres propriétés, et bien tous ces médicaments ont tendance à empêcher les autres médicaments d'être absorbés. Et finalement, vous êtes dans une des situations de ces fameuses interactions qu'on évoque très souvent et qui fait qu'il y a une règle d'or lorsque vous prenez ces médicaments, ces pansements gastriques qui sont vraiment à destination principalement des irritations ou des troubles digestifs et qui vont vraiment constituer des plâtres, hein, comme ces argiles. Il faut espacer la prise de ces pansements gastriques digestifs des autres médicaments. Sinon, ça peut être assez dramatique en termes de diminution de la dose de l'autre médicament, parce que ça va empêcher l'autre médicament d'être absorbé et donc d'être efficace. Voilà une règle à avoir dans la pratique de l'automédication. Vous arrive-t-il de prendre des antibiotiques qui vous restent d'une précédente prescription ? Oui, non. Est-ce que vous prenez des antibiotiques restants ? Donc, en grande majorité, non.
Ouf, dira le professeur Roblon.
Ouais, vous êtes quand même dans la tendance de la population générale française. La grande majorité des Français prennent des antibiotiques sur ordonnance. C'est 90% de ces Français. Mais quand même, c'est assez interpellant de voir que certains reprennent. Il y en a 8%. Et si vous regardez les chiffres, je ne sais pas si j'arrive à... Voilà. C'est, chez les jeunes, c'est même plus que 8% qui reprennent des antibiotiques, puisqu'on peut atteindre 20% finalement. Pas forcément les meilleurs élèves, entre 25 et 34 ans. On voit que jusqu'à 20% des jeunes vont réutiliser des antibiotiques qui leur ont déjà été prescrits, donc dans une situation qui peut être complètement différente. Alors même que, on le sait, hein, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et il faut respecter une prescription, puis il faut respecter une dose, il faut respecter une indication, il faut respecter une durée. Et tout ça, pour les antibiotiques, on n'est vraiment pas dans la situation où on peut imaginer faire de l'automédication. Voilà, j'ai passé un peu le panel de l'introduction. On va peut-être entrer dans la deuxième partie. Je ne sais pas si je peux passer le diaporama, si je vais savoir gérer.
Eh bien, j'en profite pour glisser une petite information que j'ai oublié de vous glisser tout à l'heure. La conférence est enregistrée. Voilà, que vous sachiez.
Oh, c'est bon, je pense que c'est bon.
Oh, pardon, excuse-moi. Oh,
pas de soucis.
Vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'Espace Mendès France et du CHU. Non, de l'Espace Mendès France, quoi.
Bonjour à tous. Du coup, je fais la suite un petit peu. Docteur Lanchier, je suis un des médecins des urgences, SAMU, Centre 15 aussi, médecin de la régulation. Hein, quand vous appelez le 15 de temps en temps, bien, je peux être la personne qui décroche. Et donc moi, je vais vous dépeindre plutôt quelque chose qui va être un peu plus, peut-être un peu plus dur, peut-être un peu plus dans le vif du sujet des choses que moi je peux voir. Donc vous imaginez bien qu'avec la spécialité que je fais, c'est un peu plus, je vois des choses un peu plus graves, un peu plus, disons, qui sont compliquées. Je voulais revenir sur une définition que je trouve... Ah oui, du coup, je ne vois pas, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur une définition que je retrouve là. C'est une définition que j'ai trouvée quand on tape en fait automédication sur Internet, c'est ce qu'on trouve. Et concrètement, c'est une définition qui est un petit peu, je dirais, qui est un petit peu has-been, on va dire ça, qui est un peu has-been. C'est-à-dire que c'est un processus au cours duquel le patient assume une grande responsabilité, hein, parce que c'est le patient qui prend de lui-même le médicament. Donc la prise en charge de petits maux avec des produits pharmaceutiques dont l'usage sans prescription médicale est autorisé. Automédication, là, il y a marqué sans prescription médicale. C'est pour ça que je vous dis que ça has been. Parce qu'aujourd'hui, l'automédication, c'est aussi des traitements qu'on utilise avec sur prescription médicale. Et donc, concrètement, pour moi, cette définition, elle est un petit peu passée de mode. Mais sachez que, finalement, l'automédication, comme on a pu le voir précédemment, c'est beaucoup sur des traitements qui ont déjà été prescrits. C'est acceptable si le diagnostic et le traitement sont clairement établis. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve de l'automédication ? Il y a plusieurs possibilités, en tout cas il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que on va pas. Il y a beaucoup de publicité qui a été faite, hein, sur le fait de ne pas encombrer les urgences pour rien, etc., etc. Donc finalement, en fait, beaucoup ont recours à l'automédication pour justement éviter d'avoir à se déplacer, éviter d'encombrer des services qui sont déjà largement en surcharge. Et donc du coup, on pense que c'est une bonne idée. L'autre chose, c'est la disponibilité des médecins généralistes. Hein. C'est vrai qu'il y a de moins en moins, enfin c'est pas qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes, mais c'est que concrètement, il y a des zones qu'on va dire un petit peu désertifiées où c'est plus difficile d'avoir un rendez-vous. Ou alors, c'est pas compliqué, hein, quand vous avez mal aux dents, vous avez envie d'avoir rendez-vous dans la journée parce que vous avez vraiment mal aux dents, et concrètement, c'est impossible d'avoir son médecin dans la journée. Les médecins qui ont des créneaux d'urgence, finalement, on en trouve très peu, ou en tout cas, si vous n'êtes pas les premiers à les demander, eh bien, concrètement, ça va être difficile d'avoir accès dans la journée. Et donc, du coup, c'est aussi pour ces raisons-là, en fait, qu'on peut se retrouver face à ce cas d'automédication. Les risques, parce que c'est un petit peu plus mon domaine, ils sont multifactoriels. C'est-à-dire, le premier, ça va être des risques qui vont être liés aux médicaments. Les médicaments sont eux aussi... je sais pas comment... Non, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, attends, c'est pas grave. Ouais, mais la zapette, elle marche plus.
Ah, si. Elle marche pas là.
Non.
Ah, on a besoin d'aide là.
Ah, attends, là, ça fonctionne peut-être.
Elle marche pas là. Le docteur. Si tu fais mieux que tu veux, si tu veux laisser, je sais pas où ils sont mis.
Sur mon lance là. Ah, ça fonctionne. Hop, ça fonctionne. Désolé. Pas de souci. Donc, du coup, là, je disais, les risques sont plutôt multifactoriels. D'un, lié aux médicaments, on sait, hein, et c'est marqué quand vous regardez votre notice, hein, de vos traitements, enfin des médicaments que vous achetez en pharmacie, c'est marqué dessus. Effets secondaires fréquents, effets secondaires rares, etc. Et ils en ont une liste qui est quand même assez conséquente. L'autre risque, il est lié aux interactions médicamenteuses. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes un patient et vous avez déjà des médicaments pour telle ou telle maladie, je vais prendre un exemple, hein, le diabète, l'hypertension, etc. En fait, les médicaments que vous pouvez prendre de votre propre chef, apparemment, en fait, il peut y avoir une interaction avec les médicaments que vous prenez déjà. Et avoir plusieurs risques, hein, et qui seront propres à chaque médicament. Et la dernière chose, et finalement c'est ce que nous on voit assez souvent aux urgences, c'est les risques qui sont liés aux mésusages. Les mésusages, c'est-à-dire quand on utilise le médicament, pas à la bonne dose et pas pour la bonne indication. Et dans ce cas-là, en fait, on va se retrouver face à des soucis organiques, hein, qui sont non négligeables. Les situations à risque, Donc, ça va être les âges extrêmes de la vie. L'enfant, hein, mais on l'a vu sur le diaporama précédent, hein, il y a moins d'automédication chez les enfants que chez les adultes. Ça va être des risques qui vont être liés aussi aux polypathologies. Donc ça, on revient sur la polypathologie, le patient qui a déjà des antécédents particuliers, qui a déjà des traitements, etc. etc. et les interactions médicamenteuses dont je parlais. Dans l'urgence, vous diriez... Pas de problème, j'ai une grande pharmacie, on a tous une grande pharmacie, on a tous vu le médecin plusieurs fois, il nous a donné à chaque fois des traitements. Les traitements, on ne les a jamais finis parce que on nous en donne plus que ce qu'il n'en faut. Et donc finalement, on garde ça de côté dans le meuble de la salle de bain. Et du coup, la question elle est la suivante, c'est est-ce que j'ai une grande pharmacie, j'utilise ce que j'ai, ou est-ce que je demande un conseil avant d'utiliser n'importe quoi ? Du coup, j'aurais dû faire une deuxième question qui était très intéressante, c'est à qui vous demandez conseil ? À votre médecin ou à votre pharmacien ? Ok, on va remettre dans le contexte, il est 2h du matin. Et vous avez mal aux dents. Là, c'est compliqué, donc vous ne faites rien. Voilà, on est d'accord. C'est là où je veux en venir. C'est que le centre 15, donc vous savez à quoi ça sert, hein, quand vous avez une urgence médicale, vous appelez le 15 et vous tombez sur un médecin qui va vous dire « bougez pas, je vous envoie une ambulance », etc., etc. Le centre 15, ce n'est pas une entreprise qui distribue des ambulances. Certes, on peut le faire, on sait le faire, on a les moyens de le faire. Mais concrètement, ça ne sert pas à ça. Le centre 15, c'est vraiment, vous avez au bout du téléphone un médecin, que ce soit un médecin urgentiste ou un médecin généraliste, qui est de garde toute la journée, 24 heures sur 24 même, et qui est là pour donner conseil. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a énormément de gens qui appellent en disant « Voilà, j'ai mal au poignet, est-ce que je peux prendre, j'ai de l'Advil dans mon placard, est-ce que je peux en prendre ?» Ben oui ou non. Nous, on est là pour donner des conseils, en fait, avant d'être là pour distribuer les ambulances et envoyer des SMUR. Donc concrètement, il y a vraiment tout un intérêt à appeler. Ça ne dérange absolument pas, il faut le savoir. Hein. Ben, en fait, non, souvent, on a l'impression qu'on dérange, mais en fait, on ne dérange pas. C'est juste qu'on a beaucoup d'appels, donc on répond très vite. On n'est pas forcément les plus gentils de temps en temps, mais il est vrai qu'on sert à ça. Clairement, on sert à ça. On sert à dispenser des conseils. Et on a été formé pour ça, donc il ne faut surtout pas hésiter. Je dirais que l'automédication, c'est bien, mais pas pour tout. Si vous avez mal, on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous prenez du paracétamol ? Si vous avez mal à la tête, hein, on revient là-dessus. Oui. On en a reparlé. Hein. Et puis si ça ne marche pas, vous en reprenez pas. Alors vous faites quoi ? L'ibuprofène. Excellent. Donc, en effet, moi, le paracétamol, je suis plutôt pour. Hein. Je dirais que le paracétamol, c'est pas... Moi, je dirais que le paracétamol, c'est un médicament, ça marche bien. C'est un palien pour les antalgiques, c'est-à-dire les médicaments contre la douleur. On a palier 1, palier 2, palier 3. Le palier 1, c'est le paracétamol, le premier qu'on peut utiliser, celui qui est disponible sans ordonnance. Et le palier 3, c'est la morphine. En gros, c'est voilà, le médicament, le vrai médicament de l'urgence douloureuse, etc. Donc moi je dirais que le paracétamol ça marche bien, antalgique de palier 1 pour les petits maux, on va dire ça comme ça, c'est 4 grammes par jour maximum, mais ça dépend du poids, parce que si vous faites moins de 50 kg, c'est pas vraiment 4 grammes par jour, c'est 15 mg par kilo par prise, en gros c'est un peu ça. Donc là c'est des calculs qui sont un peu plus compliqués, mais c'est pour ça, en cas de doute, le 15 ça sert à ça. En cas de doute, si vous ne savez pas, parce que je ne sais pas si c'est pour votre enfant, il fait un tout petit poids, je lui donne combien, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ce conseil-là. Attention au risque. Moi, je vais vous raconter une histoire. C'est une petite histoire de chasse. Hein, c'est assez intéressant. C'est un monsieur qui appelle parce qu'il a mal aux dents. Et concrètement, on lui dit, pas compliqué, vous avez du Doliprane à la maison ? Ah bah oui, j'en ai. Bah, vous prenez un gramme de Doliprane toutes les 6 heures et puis vous verrez, ça ira mieux. Le monsieur, il arrive le lendemain aux urgences parce que, en fait, ça allait clairement pas mieux. Puis, du coup, il a pris 15 grammes dans la nuit parce que, si un, ça marche pas, c'est peut-être que la dose est pas suffisante. Donc, on en prend 2, on en prend 3, on en prend 4. Le risque, c'est qu'en fait, le paracétamol, c'est une élimination hépatique, c'est-à-dire que c'est le foie qui l'élimine. Le risque, en gros, pour ce patient-là, hein, il a fini greffé parce que, en fait, il a fait une hépatite et il a fini greffé. On a dû l'envoyer à Tours. Et c'est une histoire que je vous raconte parce que c'est une histoire qui m'est arrivée personnellement. Mais c'est pas une histoire de chasse, hein, c'est pas un truc qui arrive jamais. C'est un truc qui est très fréquent en fait. C'est quand même assez fréquent. Alors aller jusqu'à la greffe, ça reste rare. Mais quoi qu'il en soit, le foie fabrique des facteurs de la coagulation et donc du coup, une surcharge en paracétamol provoque du coup une hépatite qui provoque des défauts dans la coagulation. Donc c'est les patients qui peuvent saigner, c'est les patients qui peuvent avoir beaucoup d'autres tares, enfin beaucoup d'autres soucis en son. Donc vraiment important. J'avais une petite autre question avant, parce que du coup c'est intéressant. Est-ce que vous avez de l'aspirine à la maison? Est-ce que quand vous avez mal à la tête, vous prenez de l'aspirine? Non? Pas d'aspirine? L'aspirine, ça, c'est un c'est un anti-inflammatoire. C'est aussi un fluidifiant du sang. Donc concrètement, et c'est comme tous les anti-inflammatoires, il y a un risque d'attaquer l'estomac et de faire des hémorragies digestives. Donc l'aspirine, c'est pas en automédication, clairement pas. C'est la génération, c'est pas forcément notre génération à nous, c'est plutôt la génération d'avant qui utilisait l'aspirine. Mais on en voit encore, hein, on en voit encore beaucoup. Les anti-inflammatoires, pour vous, c'est sans danger? Les anti-inflammatoires, c'est quoi? C'est l'Advil, l'ibuprofène, le Spifen, le Nurofen, toutes ces spécialités un petit peu en fen. Ok, eh ben très bien. Concrètement, non, les anti-inflammatoires, c'est pas une bonne chose. Les anti-inflammatoires, ça favorise pour moi, à mon sens, hein, ça favorise la croissance bactérienne, surtout des risques majeurs en cas d'utilisation dans les pathologies ORL. Je vais vous prendre un exemple, ça c'est un exemple qu'on voit assez fréquemment, je pense que M. Roblot sera d'accord, c'est le patient qui a une angine et qui prend du paracétamol, c'est sûr que le paracétamol c'est pas magique. Hein. Et donc du coup, il a toujours un peu mal. Et donc du coup, ce qui marche bien, c'est l'Advil. Et c'est vrai que l'Advil, ça marche super bien. Ou l'ibuprofène lambda, hein. Ça marche très très bien. Et ces patients, finalement, dans 5% des cas, c'est des infections qui sont bactériennes. Et finalement, ce patient-là, c'est pas de chance, il a une angine bactérienne. Et ça finit comment? Ça finit avec une cellulite. Cellulite cervico-faciale. Et une cellulite, c'est quoi? C'est une infection des tissus mous, une infection bactérienne des tissus mous. En gros, ça flambe. Hein. Et c'est les patients, donc du coup, ça provoque un effet inflammatoire, etc. C'est les patients qui finissent en maladie infectieuse pour avoir des antibiotiques en intraveineux. Et puis, quand ça évolue encore un peu plus, ça finit en réanimation. Et là, en réanimation, ça peut être chirurgie, ça peut être de la chirurgie, ça peut être en tout cas des conséquences qui vont être très lourdes. Donc, très important de le noter. Sachez que les cellulites, c'est 7% de décès quand même. Hein. Donc c'est non négligeable. Je suis pas là pour vous faire peur, mais un peu. Les risques associés de l'Advil. Oui, je reste urgentiste. Hein. Moi, je suis là pour vous dépeindre un petit peu les cas qui sont un peu embêtants. Mais concrètement, les autres risques liés aux anti-inflammatoires, c'est les risques en tout cas, ça attaque l'estomac. Hein, et donc, c'est les risques d'hémorragie digestive. Et c'est hyper important de le noter. Par exemple, moi, aux urgences, je ne donnerai jamais un anti-inflammatoire sans donner un protecteur gastrique. Clairement, parce que c'est des patients qui vont vraiment revenir pour avoir... Enfin, parce qu'ils ont mal à l'estomac, et secondairement, parce qu'il y a une hémorragie digestive, il y a un peu de sang dans les selles, etc. etc. Donc vraiment des médicaments qui ne vont pas être à prendre à la légère, et je le dis et je le répète, hein, en cas de doute, vous appelez le 15. Vous n'embêtez personne. Nous, on préfère vous donner un conseil en vous disant prenez plutôt ça, et plutôt à telle dose, plutôt que de vous venir vous chercher en smur dans la nuit. Voilà, je resterai sur cette petite note gay.
Alors, je vais en profiter pour faire une petite intervention. vous avez aussi sur vos chaises un questionnaire de satisfaction. Vous pouvez nous remettre à la fin. Vous pouvez aussi donner vos suggestions pour les prochaines conférences du Pôle Info Santé. Professeur Roblot.
Bien. Alors, effectivement, vous avez senti que nous ne sommes pas forcément... opposé à l'automédication, mais que ça doit être très encadré. Alors, une notion de base, il n'y a pas de petits médicaments. Hein. Il faut se méfier. Il y a une toxicité de tous les médicaments et le propre de l'efficacité d'un médicament, c'est le risque de la toxicité qui va avec. Quand ça n'est pas efficace, quand c'est un placebo, il n'y a pas de toxicité, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous avez déjà répondu à la question, on va passer vite. Effectivement, vous savez qu'il y a des risques à l'automédication. Maintenant, je vous répondrai qu'une vie sans risque, ça doit être particulièrement fat par moment. Simplement, il ne faut pas pourrir de risques inutiles. Alors, la toxicité, on vous l'a dit, paracétamol, oui. L'ibuprofène, hein, c'est un dérivé des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Hein. C'est pas, ça porte un joli nom, mais effectivement, dès qu'il y a phène, on retrouve aussi le kétoprofène, qui est un anti-inflammatoire qui est très utilisé en France, c'est puissamment anti-inflammatoire. C'est vrai que c'est un effet antalgique majeur, mais ça a une toxicité. Sur le rein, notamment l'interaction avec certains médicaments d'hypertension, sur le tube digestif, on l'a dit, ce n'est pas les seuls. Ensuite, une automédication mal gérée, surtout si elle est prolongée un peu trop longtemps, elle peut masquer des symptômes qui peuvent être utiles et révélateurs de pathologies potentiellement graves. Donc, une automédication, c'est court, mais ce n'est pas long. Sur les antibiotiques, on a déjà parlé, c'est no comment. Vous savez que la France se situe extrêmement mal dans le domaine des résistances bactériennes et que, par exemple, dans des pays comme l'Inde, la résistance bactérienne est un tel problème que si vous revenez d'Inde et que vous êtes hospitalisé, on vous isole. Vous avez droit à un prélèvement mal placé, puisqu'on fait un prélèvement rectal pour rechercher des bactéries multirésistantes, et vous êtes enfermé dans une pièce sans pouvoir sortir et bien isolé. Donc c'est le problème, l'antibiorésistance, c'est ça maintenant. Donc il faut vraiment ça. Alors, est-ce qu'il y a des risques d'interaction? Vous avez déjà répondu en fait à ça, donc on va passer vite. C'est oui. On a parlé de gel aluminium. Les INS pour les douleurs abdominales, ça, je ne suis pas un grand fanatique. Je voyais que dans un des items, c'était pas mal utilisé dans les douleurs abdominales. Compte tenu du fait que c'est une toxicité abdominale, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne truc. Et puis, un médicament qui est très utilisé, c'est le Vogalen, donc la métoclopramide. Il faut savoir que la métoclopramide, c'est ni plus ni moins qu'un neuroleptique et que ça entraîne... Il y a des risques potentiels, c'était le cas avec le primpère, avec la dompéridone, qui a des risques d'arythmie cardiaque, donc c'est pas rien. Et puis, ce qui est très très rigolo, c'est que ça peut vous donner des mouvements anormaux et les neuroleptiques peuvent entraîner des bouffées suicidaires. Alors là, pas avec le Vogalen, mais c'est pas forcément une excellente idée. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer sans risque l'automédication? Oui, non. Il faut prendre, vous pouvez répondre les deux si vous voulez. Et bien voilà, on peut en le faisant intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut connaître la bordure et il ne faut pas rouler sur les bas-côtés, il faut rouler sur la route. C'est-à-dire en plein milieu de la route, pas quand le camion arrive en face bien entendu, mais en plein milieu de la route, c'est-à-dire qu'il faut savoir où sont les limites, il faut savoir où est la bordure et rester dans les limites. Et pour ça, il faut que ce soit des symptômes qui soient connus, qui soient identifiés, c'est prévalidé ou c'est validé par un pharmacien. Je vous rappelle que dans les corps de santé, on a plusieurs corps médicaux, les médecins et les pharmaciens, que les pharmaciens sont formés pour le médicament. Ils ont une connaissance du médicament qui est excellente. Donc ils sont capables de guider les patients dans les limites utilisées, de signaler les interactions, de limiter les posologies et éviter précisément le mélange de trois formes de paracétamol différentes. Et donc ils ont un vrai service rendu. Donc je regrette qu'il ne soit pas payé aux pharmaciens, mais ça c'est autre chose, tu connais mon point de vue. Et donc l'éducation thérapeutique, elle est valable des parents à l'encontre des enfants. Il faut savoir effectivement pouvoir prêter. Un enfant par exemple qui fait une laryngite striduleuse, les parents, s'ils savent, peuvent faire gagner du temps et améliorer considérablement le risque de l'enfant. Donc il y a des choses qui peuvent se faire, mais toujours sur des symptômes identifiés, dans des conditions précises, et si on a pu les valider avant, bien entendu. Et dans certaines maladies chroniques, oui, bah par exemple, un patient chronique qui s'automédique, vous en connaissez, il y a peut-être dans votre entourage des diabétiques qui sont sous insuline. Ils adaptent même leur dose, ils savent quand il faut se resucrer, etc. C'est de l'automédication, c'est d'éducation thérapeutique, mais c'est automédication. Alors, d'où la réponse, la question, est-ce qu'on peut, dans certains cas, et je dis bien dans certains cas, utiliser l'automédication dans les maladies chroniques? Oui, il y a une majorité de verts, je suis tout à fait d'accord. C'est oui, mais c'est anticiper, c'est certaines maladies, c'est pas toutes les maladies, et c'est apprendre à distinguer avec les professionnels de santé ce qui peut être géré en autonomie et ce qui doit faire consulter. C'est toujours des périodes courtes, c'est pas 6 mois de traitement ou 3 mois de traitement, c'est toujours 2-3 jours, ce qui permet parfois de se retourner aussi pour avoir un rendez-vous et autres. Et il faut que le médecin référent qui vous suit pour la pathologie chronique soit disponible. Alors, il ne peut pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on répond par exemple à des mails tous les jours. Je réponds à des mails de patients que je suis en consultation pour des maladies chroniques. Et je leur dis oui, non, peut-être. Non, il faut que je vous voie, là, ce n'est pas la peine. Ou là, vous pouvez le faire. Donc, c'est le point, c'est important. Et je vous donne un exemple. Alors, c'est le syndrome de Sjögren. Alors, syndrome de Sjögren, je vais vous expliquer, c'est la maladie auto-immune la plus fréquente. C'est une maladie qui comprend différents symptômes, dont ce qu'on appelle un syndrome sec, par exemple un manque de salive et de larmes, des phénomènes douloureux, il peut y avoir l'atteinte de plein d'organes. Et en revanche, c'est des patients qui ont souvent des douleurs, notamment des douleurs osteo-articulaires relativement importantes, mais aussi des myalgies. Voilà, alors si on va prendre le cas d'une patiente qui a une cinquantaine d'années, c'est l'âge moyen habituel de cette maladie. C'est une maladie très fréquente, je vous l'ai dit, hein. Elle est mal connue, mais c'est très fréquent. Le méthotrexate, c'est un médicament qui est utilisé dans les rhumatismes, qui est un médicament le plus utilisé dans tout ce qui est rhumatisme inflammatoire. Et puis, est-ce qu'elle peut ? Elle a une poussée douloureuse articulaire importante, elle est en vacances au bord de la mer. Est-ce qu'elle peut, selon vous, prendre des corticoïdes, de la prednisone ou un autre corticoïde ? Ah, il y a surtout du non. Et bien la réponse, c'est oui. C'est oui, parce qu'on lui a appris à reconnaître les signes de poussée articulaire de sa maladie, et elle sait la posologie qu'elle peut prendre pendant 2 ou 3 jours, ce qui lui permet de passer le cap. Mais en préétabli, c'est-à-dire qu'on lui dit, attention, si votre articulation gonfle, etc., si à ce moment-là, vous utilisez telle dose de corticoïdes. Si ce n'est pas un truc habituel, si ce n'est pas un symptôme que vous connaissez déjà, c'est niette. Donc c'est très aimé, c'est une automédication. Alors je leur demande de mettre un petit mail pour dire j'ai fait tel jour à tel jour pour que je puisse mettre ça dans le dossier. Mais ça marche très bien. Alors en revanche, elle tousse, elle a de la fièvre. Est-ce qu'elle peut prendre du paracétamol ? Du ibuprofène. Non, de toute façon, c'était du paracétamol. Alors bon, j'aurais pu mettre du paracétamol à la place. Eh bien non. Non, parce que c'est des maladies qui peuvent faire... Alors, la plupart du temps, quelqu'un qui tousse et qui a de la fièvre, il a un virus. C'est 98% des infections respiratoires en France. Donc, 98% des infections respiratoires, les virus, c'est, ça reste une marge de manœuvre assez large. Sauf que dans les maladies auto-immunes, ça peut être un signe de poussée de la maladie auto-immune. Les atteintes pulmonaires sont urgentes. Et ça peut être un signe de toxicité du méthotrexate. Et c'est urgent aussi. Donc les patientes que je suis qui ont une maladie de syndrome de Sjögren et ou qui sont sous méthotrexate, je leur dis si fièvre et tout, vous consultez et vous ne vous automédiquez pas. Donc vous voyez, on est exactement sur l'inverse de certaines populations. On va vous dire, si vous avez un peu de fièvre, un peu de paracétamol dans des limites intelligentes, c'est bien. Donc il faut s'adapter à chaque cas, et l'automédication, moi j'ai une position très claire, c'est oui, mais. C'est oui, mais qu'est-ce qu'on fait, avec quoi, comment, comment on peut être encadré. Vous avez le centre 15, vous avez les médecins référents, vous avez le pharmacien, ça fait quand même beaucoup de recours. Alors évidemment, le pharmacien à 2h du matin, c'est plus compliqué. Médecin référent, je ne réponds pas à mes mails à 2h du matin, je tiens à le préciser quand même. Mais vous avez quand même beaucoup de possibilités d'accompagnement, et je pense que ça peut permettre de passer des caps difficiles. Alors il y a quelques règles. Les femmes enceintes ne prennent pas. Vous savez que la règle, habituellement, c'est on ne prend pas un médicament si. Une contre-indication. Chez la femme enceinte, c'est simple, c'est l'inverse. C'est on ne prend aucun médicament, sauf si on est sûr d'une acuité. Donc c'est on inverse la charge de la preuve. Les enfants, non, sauf quelques cas très particuliers. Là encore, c'est encadré au préalable, ça a été vu avant, etc. Je dis ça parce que j'ai un de mes enfants qui a fait plusieurs laryngites triduleuses et j'avais des corticoïdes à la maison. Voilà.
Qui ne sont pas automatiques.
Voilà. Pas pour les maladies chroniques, sauf indication très précise et validée en amont. On n'est quasiment plus en automédication, on est presque dans la prescription anticipée. Bien savoir décrire ses symptômes identifiés et en faire part à un professionnel de santé, ça c'est important. Hein. Il y en a. Mais bien décrire les choses, faut savoir utiliser les mots et savoir dire honnêtement ce qu'on a et pas chercher ni à masquer ni à outil. Faut être franc. Faut bien suivre les conseils de son pharmacien. Parce que je vous l'ai dit, il connaît très bien ses médicaments, et donc c'est son boulot. Hein, je veux dire, il faut lui faire confiance. Et puis si ça dure un peu trop longtemps, ben, c'est que l'automédication, ce n'est pas suffisant. Alors moi, je conclue sur une phrase que j'adore, qui est de Corneille, c'est à propos de la mort de Richelieu, c'est « il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien ». Et j'avoue que c'est ce que je dis toujours sur le médicament. Voilà, je vous remercie.
Merci messieurs. Moi j'ai une question, est-ce que ça vous plaît cette formule de... ça c'est ludique, on apprend tout en s'amusant. Donc si vous avez des questions, la parole est à vous maintenant. Et ben voilà.
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir pourquoi encore de nos jours le médecin prescrit toujours des médicaments pour soigner un rhume, sachant qu'un rhume soigné sans complication dure une semaine, et un rhume soigné dure une semaine, et un rhume non soigné dure 8 jours. Donc en fait, j'entends bien un rhume sans complication. Hein, je ne parle pas de... voilà. Et à mon sens, je trouve qu'on prescrit encore trop de, de ce médicament, genre Fervex, etc., qui finalement n'ont aucune signification, à mon sens, quoi. Mais je pense plutôt que si on a vraiment le nez bouché, bon, se faire de prendre de l'eau salée, ça marche très bien, de l'eau de mer. Merci.
Alors, d'abord, effectivement, on a dit tout à l'heure, les infections ORL et respiratoires sont virales la plupart du temps. Et il n'y a pas de médicaments qui marchent contre les virus. Donc, effectivement, mettre des médicaments, c'est un peu un côté. On est quand même dans une société où on a une tolérance de la maladie et de la douleur qui est devenue très faible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir. La douleur n'est plus rédemptrice. Mais on a une tolérance du symptôme qui est très faible et qui fait qu'on a effectivement un taux de consultation pour des symptômes relativement courants qui est très élevé en France. On est un pays qui a le plus de recours aux médecins. Et quand vous prescrivez quelque chose, la consultation est très courte. Quand vous ne prescrivez pas et que vous devez expliquer pourquoi vous ne prescrivez pas, ou que vous refusez une prescription qui vous est demandée, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus difficile. Et je ne vous cache pas aussi que ça m'est arrivé ce matin en consultation, j'ai refusé de faire une prescription d'un patient qui voulait absolument une prescription. J'ai dit, je refuse à faire. Je suis resté courtois, mais comment dirais-je, le ton est monté de son côté de façon assez inadaptée, on va dire. Donc il y a une exigence qui est une exigence sociétale, hein, qu'on voit surtout, et qui est très forte. Et les médecins, et comme tout le monde, on est aussi des êtres humains. Il y a des moments où, de guerre lasse, certaines choses se font, je dirais, de guerre lasse.
Juste comme le dit le professeur Roblot, je suis entièrement d'accord, c'est quelque chose de sociétal. Nous, on le voit tous les jours, les gens qui appellent au centre 15 en disant « Voilà, je vous appelle parce que j'ai le nez qui coule, j'ai de la fièvre, j'ai mal je sais pas où. » Et on dit « Est-ce que vous avez consulté ?»« Oui, j'ai vu mon médecin traitant aujourd'hui. » Et alors, il a dit que c'était un virus, il m'a rien donné, donc il est nul. Et en fait, concrètement, c'est exactement ça. Je pense que c'est la société française qui demande des médicaments. C'est un petit peu, enfin, c'est un peu l'effet placebo, quoi. C'est, il m'a donné quelque chose, donc il a compris que j'avais un problème, il m'a entendu, et c'est le début de mon traitement. Après, il y a aussi, je pense, le médecin qui prescrit quelque chose. Aussi, c'est le fait de se dire, voilà, je vais être un peu tranquille, quoi. Il y en a certains qui font ça, je pense.
Une autre question ? Oui.
Oui, bonsoir. Plutôt que d'appeler le 15 tout à l'heure, je pense que j'ai personne qui peut répondre à ma question. Moi, ce qui m'arrive, c'est que j'ai fait l'automédication là, en ce moment. Le médecin m'avait donné des corticoïdes il y a à peu près 3 semaines parce que j'avais une toux qui ne passait pas après avoir eu d'autres choses. Et là, il s'avère que j'ai eu mal à la gorge. J'avais l'impression que j'avais des ganglions. Mm-hmm. Et ce matin et hier, j'ai repris 2 cachets de corticoïdes. Et comme c'était sur 3 jours, je pensais en reprendre demain 2 autres. Alors, je pense que je fais une grosse bêtise, là.
Oui.
Vous en êtes consciente.
Alors, c'est un point. En France, on utilise les corticoïdes dans infections ORL virales parce que ça raccourcit la perception des symptômes par le patient. Ça ne raccourcit absolument pas la durée de la maladie, voire ça a été montré que dans les otites, ça augmente la durée et la sévérité des séquelles auditives chez les enfants. Donc c'est plutôt néfaste. Mais c'est effectivement, quand vous prenez des corticoïdes et que vous avez une infection virale, comme vous réduisez l'inflammation, vous avez moins de symptômes. Il faut savoir que l'usage des corticoïdes dans l'infection virale et ou bactérienne favorise le risque de rechute dans les semaines qui suivent.
On n'aura pas besoin d'appeler le 15 ce soir.
Non, mais par contre, c'est sûr que si ça dure... Si le premier épisode n'est pas passé et vous avez des corticoïdes et que ça dure, c'est que là, probablement, il va falloir aller reconsulter. Comme on vous disait tout à l'heure, 95-98% des infections ORL, finalement, ORL ou même pulmonaire basse, hein, c'est des virus. Donc concrètement, si avec les corticoïdes, ce n'est pas passé, c'est que peut-être il y a autre chose. Et dans ce cas-là, il faut revoir le médecin pour refaire le point. Écharpe.
Bon, normalement, on ne fait pas des consultations personnelles, hein, c'est plutôt des questions un peu générales.
Oui, bonsoir. Je m'interrogeais sur la dangerosité du Doliprane quand on le prenait sur une longue période. Parce que c'est vraiment le premier médicament qu'on prend en automédication, souvent, vous l'avez dit, pour un maux de tête, pour une douleur. Et quand on a le réflexe de le prendre sur une très longue période, et pas 3 jours, 3 mois, enfin bon, bref, quand c'est vraiment, est-ce que c'est pas un, quand même un médicament indépendamment de la dose qu'on prend? Vous mentionnez tout à l'heure le monsieur qui a pris 15 cachets en 24 heures, mais vous voyez ce que je veux dire, la longévité de la prise. Est-ce qu'elle est vraiment inoffensive? Est-ce que ça ne détruit pas la faculté de l'organisme aussi à se défendre?
En fait, on peut déjà reprendre les règles dorées. On était sur l'automédication et sa durée. Et du coup, ça, c'est quelque chose de clair. C'est que l'automédication, ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans le temps. Donc, de toute manière, l'idée de prendre du paracétamol de façon continue ou continuelle ou trop régulière, ça ne correspond pas à une bonne pratique d'automédication, puisque ça veut dire qu'il y a un symptôme ou une maladie qui perdure. Et du coup, ça nécessite forcément de consulter. Et du coup, ce n'est pas l'automédication qui va répondre. Ensuite, sur la toxicité, certains malades vont avoir des traitements et des prescriptions de paracétamol plus régulières que d'autres parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et là, le bénéfice peut être effectivement positif comparé à ce risque de toxicité dans le temps. Mais c'est toujours une évaluation par un médecin, puisque si c'est dans le temps, c'est qu'il y a un médecin qui a effectivement fait que ça dure. Donc c'est différent de l'automédication qui durerait. Là, il faut absolument bannir l'automédication dans sa durée. Ça, c'est clair pour moi.
Après, sachez que les médicaments ont vraiment des temps d'action. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'action, un temps d'absorption, un temps où le médicament est à son pic d'activité, et après il y a le temps d'élimination, on va dire ça comme ça. Si ça a été validé, le Doliprane, sur une période jusqu'à 4 grammes par jour, par exemple toutes les 6 heures, c'est pour une bonne raison, c'est que concrètement, ça a été prouvé qu'au bout de 6 heures, le médicament n'agit plus. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de risque de surcharge, de surdosage. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Je voulais savoir s'il y avait un risque à prendre, par exemple, un Doliprane dont la date serait déjà passée depuis 2 ou 3 mois. Voilà, est-ce que c'est dangereux aussi?
On a beaucoup cette réflexion-là sur l'alimentation, déjà. C'est difficile pour moi, en tant que pharmacien, de vous dire qu'on peut prendre un médicament qui est périmé, parce que, par définition, les règles de bon usage, c'est qu'un médicament périmé, on ne doit pas l'utiliser. Donc, effectivement... La date est passée, il est périmé, il faut pouvoir en prendre un autre. Périmé de quelques jours, on a quand même une bonne idée que du jour au lendemain, le médicament ne va pas être passé de son état utilisable à l'état plus du tout utilisable. Donc, si c'est quelques jours, on imagine qu'il ne devient pas périmé en quelques jours. En revanche, il peut y avoir un risque à utiliser un médicament qui est périmé depuis 1 mois ou 2 mois, sur son efficacité, mais aussi sur sa toxicité. Surtout un médicament qui n'est pas stable très longtemps, eh bien le fait qu'on n'ait pas bien respecté la date, s'il se conserve au froid, si déjà il a des signes de problème de stabilité, notamment par rapport à sa conservation ou par rapport à la durée qui est marquée, effectivement, il vaut mieux éviter de prendre un médicament périmé parce que ça peut être néfaste ou inefficace.
Par rapport à la conservation, est-ce qu'il y a des endroits où, où il ne faut pas stocker ces médicaments? Au froid, au chaud, au soleil, peut-être... Non ?
Ah ben, au soleil, je ne pense pas qu'il y ait de médicaments qui soient bien conservés au soleil. Il y a des médicaments qui peuvent se conserver au froid, mais il y a des médicaments qui se conservent à la congelée, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup, des médicaments congelés. Mais par contre, il y a beaucoup de médicaments qui se conservent au froid, et le froid, ce n'est pas la congélation. Et effectivement, le froid, ce n'est pas la congélation, et de le congeler, souvent, ce n'est pas bien. Ceux qui doivent se conserver au froid, en général, il faut éviter la congélation. Et vous savez que les fonds de nos frigos ne sont pas propices à ces problèmes de congélation. Et quand on touche ces fonds de frigo, parfois ça peut congeler. Et les médicaments qui se conservent au froid, il faut se méfier de cette notion de congélation et qui, effectivement, ne doivent pas se retrouver à être congelés à un moment donné. Parce que ça, c'est assez important, souvent, sur leur efficacité, principalement. Le Bagnols au soleil. Ah oui, pour certains... Oui. Certains alcools nécessitent le soleil, mais pas de médicaments.
Rebonjour. Je voudrais avoir votre avis, parce que depuis quelque temps, on a déremboursé l'homéopathie. Alors, je voudrais savoir, parce que ça fait partie aussi un peu de l'automédication, si vraiment l'homéopathie, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Parce que si réellement ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, Bon, je sais bien que les laboratoires boiront, entre autres, je ne serai pas d'accord, mais si ça ne fonctionne pas, pourquoi on continue alors? Surtout qu'il y a quand même un panel de médicaments qui sont en vente en pharmacie à l'heure actuelle, qui n'ont pas encore prouvé leur efficacité. Et malheureusement, on s'aperçoit que ces médicaments sont toujours en vente. Alors pourquoi? Je m'adresse aux pharmaciens, peut-être que... il y a certains médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Alors là, d'accord, mais il y en a certains... voilà. Alors, et puis pour l'homéopathie, je ne sais pas. Voilà. Je voudrais avoir votre avis.
Commencez, et après, je pense qu'on va continuer la discussion. On pense qu'on va faire des conférences sur les médecines alternatives. Hein, la question qui a été posée, elle était un peu double. L'homéopathie est un médicament aujourd'hui dans la réglementation française et ça reste un médicament. Et du coup, c'est pour ça qu'on le trouve au sein des pharmacies, qu'il y a des médecins qui le prescrivent. Il était remboursé et ce qui a été discuté aujourd'hui, c'est son déremboursement pour les problématiques de niveau de preuve. Donc, c'est deux questions un petit peu posées en une, c'est-à-dire l'efficacité et son remboursement. Là, c'est le lien qu'il y a. Ça reste un médicament dans sa définition, mais effectivement, son remboursement a été remis en question par rapport au niveau de preuve. Et c'est une des problématiques de l'homéopathie, puisque en termes de niveau de preuve, eh ben, ça ne répond pas aux standards de l'évaluation des médicaments. Et du coup, il faut bien se poser la question de est-ce que ça doit continuer à être un médicament? Est-ce que ça doit continuer à être prescrit? Parce qu'il y a des prescripteurs d'homéopathie. Est-ce que ça doit être remboursé? Et c'est ce qui est en ce moment en train d'être à discuter, l'évaluation de l'homéopathie. Alors après, moi, je vais donner ma version personnelle ou pharmaceutique, si on veut. C'est qu'il faut savoir pourquoi on évalue l'homéopathie. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, il faudrait bien décider de quelle est l'évaluation qu'on veut faire de l'homéopathie. C'est-à-dire... à quoi ça sert, à quoi on veut que ça serve, et évaluer effectivement ce à quoi on veut que ça serve. Et puis, ben, si c'est bien, donc si on arrive à quoi ça sert, donc il faut définir à quoi on veut que ça serve. Et si on arrive à montrer que ça sert, continuer à considérer que ça puisse être un médicament et le rembourser éventuellement. Et puis, par contre, si on a dit que ça devait servir à ça et que ça ne répond pas à servir à ça, qu'on n'arrive pas à prouver que ça sert à ça, et ben, arrêter d'en faire un médicament et encore plus de le rembourser. Voilà un peu mon avis, c'est qu'il faudrait d'abord définir à quoi ça sert.
Ça fait l'objet d'une autre conférence, effectivement.
Alors, alors sur le niveau de preuve, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans toutes les études, il y a plusieurs centaines, ça n'a pas fait la différence par rapport à placebo. Alors, je répondrai qu'en automédication, il y a au moins un avantage, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de toxicité. Donc, quelque part, on peut se dire, pourquoi pas. Ma seule crainte... dans ces cas-là, c'est qu'on voit couramment des patients présenter en fait des maladies graves parce qu'il n'y a pas eu la prévention, parce qu'il n'y a pas eu l'usage de l'homéopathie à remplacer l'usage du bon traitement. Je prends l'exemple, chaque année, je perds un ou deux patients de maladies auto-immunes sous immunosuppresseurs parce qu'ils se sont cru qu'en utilisant le vaccin homéopathique contre la grippe, ça les protégeait. Ça me met mal à l'aise, ça me met très mal à l'aise. Donc maintenant, je suis d'accord avec le professeur Dupuis, il faut toujours évaluer. À ce jour, on n'a pas de données qui montrent une efficacité et donc à juste titre, les pouvoirs publics ont dit il n'y a pas eu de preuve d'efficacité dans les études que vous avez faites, donc par conséquent, il n'y a pas de raison de rembourser. Si on pouvait montrer quelque chose, à ce moment-là, il faut rester honnête. Moi, je vais prendre d'autres exemples. Il y a des médicaments dont on était persuadé de l'effet, d'autres techniques dont on était persuadé de l'effet placebo. Et on a montré récemment que certaines techniques, je vais prendre l'acupuncture, sont efficaces sur les douleurs. Ce qui est efficace, ce n'est pas le méridien dans l'acupuncture, c'est la profondeur à laquelle on pique, parce qu'on stimule certains récepteurs endomorphiniques de la peau. Et donc, ça soulage la douleur. Donc, c'est efficace. Le méridien sur lequel on pique est peut-être moins important, mais ça marche. Donc, simplement, c'est une évaluation scientifique pour montrer que ça peut montrer. Maintenant, ce n'est pas de l'automédication, l'acupuncture.
Moi, je vais rester peut-être un tout petit peu plus modéré. Qui a déjà donné de l'arnica à ses enfants ou alors a pris de l'arnica pour un petit bobo? Tout le monde. Et tout le monde me dira que ça marche. Ouais. Et bien, en fait, voilà, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que voilà, le niveau de preuve, il n'y a pas de niveau de preuve, etc. Mais il y a cet effet placebo qui fait que, oui, j'ai pris quelque chose, je vais mieux. Et donc, finalement, si je vais mieux, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait qu'un patient rassuré, il y a plein d'études qui ont montré ça, hein. Un patient rassuré, il est déjà traité en fait. Il a déjà commencé sa prise en charge, il va déjà mieux. Parce qu'il a été entendu, parce qu'il a été traité. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est exactement ça. On a été entendu, c'est exactement ça. Et puis c'est pareil pour l'arnica, on donne de l'arnica à ses enfants. Concrètement, les parents sont persuadés d'avoir donné quelque chose, donc l'enfant ira mieux. Les parents sont moins stressés, l'enfant va mieux. Voilà. C'est...
Ce qui reste sûrement important, c'est de ne pas le faire à la place d'eux. À la place d'eux, je pense que là on se trompe. En revanche, envisager l'homéopathie, aussi parce qu'il y a des patients qui n'ont pas de solution. Enfin, faut qu'on reste modeste sur certaines situations où il y a des patients qui n'ont pas de solution, mais pas à la place d'eux. Je pense que ça, on serait tous d'accord de dire pas à la place d'eux.
Alors moi, je n'ai jamais utilisé un micro.
Bonsoir. J'aurais une question au sujet des crèmes anti-inflammatoires que l'on peut aussi avoir parmi ces médicaments. Est-ce qu'elles peuvent présenter autant de risques que les AINS dont vous nous avez parlé, ou même d'autres risques éventuels ?
C'est un petit peu toujours le problème de tous ces topiques. Tout ce qu'on met sur la peau, en règle générale, on a un peu une impression que finalement c'est une action locale, ce qui peut être vrai. Il peut y avoir une action principalement locale. En revanche, on connaît bien la peau pour arriver à avoir aussi une action bien plus importante que juste locale. On met des patchs d'urogésique, de morphinique, de palier 3 qui vont avoir des effets puissants sur la douleur et pourtant on applique le patch sur la peau. Ce qui veut bien dire que lorsqu'on applique quelque chose sur la peau, ça peut aller dans le sang et avoir une action systémique complète. Et du coup, effectivement, c'est un des inconvénients parfois de certains médicaments par voie locale. C'est que dans leur modalité d'application, il faut vraiment respecter les modalités d'application, sous-entendu limiter à la zone où on a besoin de mettre le topique, éviter de réadministrer trop fréquemment le médicament topique, éviter de frotter, éviter de mettre un pansement occlusif qui va augmenter, parce qu'il y a toujours une petite partie qui passe, et plus elle est petite, mieux c'est, parce que ce qui va passer va entraîner des effets indésirables, et on a parlé des AINS. Si très peu d'AINS passent, il y aura très peu les effets indésirables qu'on a évoqués. Mais s'il y en a beaucoup qui passent, vous allez avoir beaucoup d'effets indésirables. Et vous pouvez peut-être arriver à avoir les mêmes effets indésirables, finalement, que si vous l'aviez pris par voie orale, parce que vous avez mal appliqué votre AINS en mettant trop, en mettant sur une plaie. On voit ça, par exemple, aussi, parfois. Mettre le passage dans le sang, forcément, on le conçoit. Vous voyez que c'est finalement une modalité d'utilisation du médicament qui est plus compliquée, parfois, que le comprimé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et pour lequel il faut faire plus attention. Chez l'enfant, par exemple, les médicaments sur la peau d'un enfant passent très très vite. La peau est beaucoup moins épaisse et ils sont beaucoup plus. Donc c'est vraiment une voie qui peut poser plus de problèmes qu'on le croit. Et finalement, on a l'impression qu'en utilisant une pommade anti-inflammatoire, on prend moins de risques. Ben non, faut bien l'utiliser.
Bonsoir. Je me demandais s'il y avait des médicaments, je pense une famille de médicaments qui étaient plus propices à l'addictologie, donc qu'on prend tous les jours finalement. Pas tous les jours,
toutes les benzodiazépines en fait. Tout ce qui est benzodiazépines, ce que j'entends c'est médicaments sédatifs, par exemple vous avez du mal à dormir, vous allez voir votre médecin traitant, vous présentez des insomnies, il va vous prescrire un traitement, tout ce qui est benzodiazépine, c'est des médicaments qui sont sédatifs, hein, et il y a une vraie addiction qui peut naître de ça. Et autre traitement qu'on peut avoir tous à la maison, c'est doliprane codéiné, il y a de la codéine, hein, c'est hyper addictif la codéine. Aux États-Unis, ils arrivent à détourner ces traitements-là pour revendre la codéine. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça, on avait eu, nous, un message de l'ARS. Les jeunes, enfin, j'en fais partie, mais les plus jeunes que moi, les plus jeunes que moi faisaient des cocktails en soirée, un doliprane codéiné dans un Sprite, en fait, avec l'acide citrique. Ça faisait des effets, clairement, qui étaient des effets psychotropes, en fait. Et donc, ils se shootaient avec ça. Donc, oui, il y a des effets secondaires. C'est bon, comme Sprite. comme toutes les drogues. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé.
Non, mais Sprite, c'est pas bon.
Le Sprite. Si, c'est bon.
C'est les jeunes. Tu te fais bien dire que toi, t'es vieux.
Oui, moi, je voudrais vous demander, il ne se passe pas un mois ou deux où on voit maintenant une liste de médicaments que je prenais, moi, depuis de nombreuses années, et maintenant, c'est dit que ces médicaments ne sont plus à la vente, ou sont toxiques et tout. Alors, ces médicaments qui, pour moi, fonctionnaient très bien. Donc, s'il s'avère qu'on en a encore dans notre pharmacie personnelle, est-ce qu'il faut ne plus les prendre ou est-ce qu'ils sont dangereux tout d'un coup ou pas ? Que doit-on faire? Est-ce qu'on peut se permettre d'en prendre quand même?
Ils ne sont pas périmés, au moins.
Il y a des médicaments qui sont régulièrement arrêtés effectivement dans leur commercialisation. On a connu le dextropropoxyphène, qu'on aimait beaucoup. On a connu des médicaments même récemment qui ont été retirés. Et du coup, là encore, il y a sûrement des bonnes raisons pour lesquelles ils ont été retirés. Et en termes d'automédication, ce n'est sûrement pas les médicaments qu'on va garder pour faire de l'automédication. En revanche, après, s'ils étaient positionnés dans une prescription, à une prescription, il faut en rediscuter avec son médecin pour savoir comment repositionner ce traitement. En revanche, un médicament qui a été arrêté ou pour lequel on a changé les modalités d'accès, il est bien évident qu'il ne faut pas le garder dans sa liste potentielle de médicaments d'automédication. Ça ne va sûrement pas être cela qu'on va garder.
Une autre question ?
Oui.
Bonsoir. Un graphique au début de votre présentation montrait la part de consommation d'automédication dans la consommation de médicaments en France et puis dans d'autres pays. On voyait qu'en Grande-Bretagne, il y avait une grosse part d'automédication. Ma question est simple, est-ce que les Anglais ont plus de problèmes de toxicité qu'en France? Sinon, que font-ils? Si oui, que font-ils?
En fait, dans ces données-là, ce que ça montre, c'est que le système de santé à anglo-saxon est un petit peu différent du nôtre. Il est moins généreux. Et du coup, il responsabilise plus. On peut voir le côté négatif, il est moins généreux. On peut voir le côté positif, il responsabilise plus. Et en fait, c'était un petit peu l'idée de cette diapo. Il y a possibilité de s'automédiquer. Et sûrement qu'en France, on ne fait pas beaucoup d'automédication et on ne fait pas l'automédication qui correspondrait, c'est-à-dire après l'avis de son médecin, après l'avis de son pharmacien, aller se fournir en un médicament et qui, du coup, montre qu'on a une éducation autour du médicament, de son utilisation dans des conditions et que du coup on va l'acheter dans le bon endroit où on aura le bon conseil avec le conseil de son médecin et que du coup on va consommer des médicaments mais dans un mode à éduquer. Et du coup nous on est peut-être moins dans ce mode là, on est plus dans le mode effectivement on réutilise nos médicaments prescrits et on va moins je pense vers ça. Voilà ce que ça voulait dire, alors que d'autres pays liés sûrement aux modalités de remboursement, on pratique plus l'automédication et ça, c'est ce qu'on voit avec les conseils des médecins, parce que aussi le remboursement est moins bien et du coup, de toute manière, ça passe plus par l'achat direct. Donc on peut se former sûrement mieux, former mieux les patients à l'automédication.
Une question ? Une autre question ? Et dans les pays où la médecine est moins remboursée, est-ce que les gens vont plus sur Internet qu'en France pour demander conseil, pour chercher conseil?
Alors, si je peux prendre un exemple, aux États-Unis, par exemple, vous pouvez avoir une consultation avec un conseil, ça vous coûte $40. Voilà, ça coûte ça. Et encore, quand c'est pas cher. Donc concrètement, après, je me permettais juste de revenir, c'est que les médicaments qui sont dans ces pays anglo-saxons ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de paracétamol, si je n'ai pas de bêtises, c'est du Tylenol. C'est pas du tout la même chose. Et
c'est l'acétaminophène. Voilà. C'est une des rares DCI qui n'est pas très commune, mais qui n'est pas identifié pareil.
Voilà, ils ont clairement pas les mêmes médicaments et ce que je veux dire, c'est peut-être un peu dur, mais c'est pas des sociétés d'assistés quoi. Concrètement, les gens, ils se prennent en main, ils respectent les ordonnances qui ont été faites. Quand c'est de l'automédication, ils respectent ce qui a marqué. Et finalement, il n'y a pas plus de cas de surdosage que chez nous. Donc, c'est quand même, ils sont beaucoup plus. Ils ont un système qui, ne travaille pas pour eux. Et c'est des gens qui sont obligés de se responsabiliser vraiment pour pouvoir se soigner. Ce qui n'est pas finalement le cas en France, parce qu'en France, c'est beaucoup plus simple. Donc, oui. Ils vont pas forcément plus sur Internet, ils s'automédiquent plus parce que c'est cher une consultation, ils doivent la payer de leur propre poche dans ces pays-là, donc ils s'automédiquent plus. Après, je suis pas sûr qu'ils aillent plus sur Internet. Internet, c'est pour avoir des médicaments qui sont clairement sur prescription médicale. Aux États-Unis, en Angleterre ou même en France, je pense que les médicaments qui sont commandés sur Internet, c'est plutôt des médicaments, comme on disait, des benzodiazépines ou des médicaments qui se revendent sous forme de drogue, entre guillemets.
Et sur Internet toujours, est-ce que vous avez quand même des conseils? On sait quand même que beaucoup de Français vont aussi chercher conseils là-dessus. Est-ce que vous avez des sites à nous conseiller ou à déconseiller fortement? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour le coup?
Moi, j'ai un conseil pour les femmes enceintes. C'est le CRAT. C'est le CRAT. Alors, C-R-A-T. C'est en fait un site qui est super bien fait où en fait les femmes enceintes, souvent, elles ne savent pas les médicaments qu'elles ont le droit de prendre. Bah, vous allez sur le CRAT en fait, et vous notez le nom du médicament et il y a une fiche technique du médicament et ils expliquent si oui ou non la femme enceinte a le droit de le prendre, si oui ou non il y a un risque pour la grossesse. Donc vraiment, dans les sites qu'on connaît, moi, il y a ça que je connais et qui est vraiment bien.
Merci.
Après, la question aussi des médicaments sur Internet, c'est qu'il y a des modalités légales d'acheter des... c'est pas de ça que parlait le docteur Jean-Chi tout à l'heure, c'était vraiment l'accès à ce médicament par le net, parce que c'est peut-être d'ailleurs plus comme ça que ça marche. Il y en a peut-être plus d'acheter comme ça que par... Mais il y a des modalités légales, notamment les officines ont le droit d'avoir de la vente par Internet. C'est très limité, hein, les médicaments qui peuvent être vendus sur Internet sont bien évidemment très réglementés. Et du coup, effectivement, on peut acheter des médicaments sur Internet dans un mode légal. Il y a une liste d'officines qu'on peut identifier. Le site de l'ARS donne parce que c'est vrai que quand on va sur le web, c'est pas toujours là qu'on a le niveau de preuve. Mais du coup, on peut vérifier que c'est vraiment un site légal. Mais encore une fois, voilà, si on est passé par le 15, si on est passé par son médecin et qu'on va s'approvisionner au niveau d'un site Internet dans une officine dans laquelle on a vérifié quand même que c'était bien une officine autorisée, on peut le concevoir. Mais se passer d'un conseil qu'on pourrait avoir dans une officine ou auprès de son médecin pour s'approvisionner, ça n'a pas tellement d'intérêt dans cet achat-là. Et puis, par contre, il faut se méfier, parce que c'est quand même, aujourd'hui, le faux médicament, c'est quand même un certain problème. Alors, en France, dans les officines ou dans les hôpitaux, ce n'est pas le problème. Mais en revanche, l'Internet n'est pas français. Et du coup, beaucoup de pays ont beaucoup de problèmes avec les faux médicaments. Et du coup, à travers les sites, justement, où on ne sait pas si ce sont effectivement des sites légaux et donc des officines, il peut y avoir de l'achat de faux médicaments. Et ça, c'est... On se fait plus d'argent à vendre un faux Viagra qu'à vendre une barrette de shit. Ça, c'est plus rémunérateur que la revente de la drogue, la revente des médicaments falsifiés.
N'encouragez pas le business.
Juste rajouter un tout petit point. Dans les sites internet, si vous avez une maladie chronique, il faut en parler avec votre médecin. Parce qu'il y a des sites internet faits par des associations de patients qui sont absolument remarquables. Il y en a d'autres, en revanche, qui sont un petit peu... Il y a à boire et à manger. Donc, par exemple, quand je suis un patient pour une maladie auto-immune comme une sclérodermie ou autre, je leur dis, c'est celui-là, c'est cette association-là qui fait un site qui est bien fait, dans lequel il n'y a pas de charlatanisme, etc., ni de faux semblants, etc. Mais il y a de très bons sites, très très bons sites, mais comme partout sur Internet, il y a à boire et à manger, donc il faut vraiment choisir le truc. Et là, je pense que c'est un domaine dans lequel qu'on ne connaît pas. Il faut à ce moment-là, c'est un peu comme le médicament, il faut être un peu guidé sur le site.
Ou d'éducation thérapeutique sur Internet.
Ou venir au Pôle Info Santé.
Voilà.
Une autre question ?
Je voulais revenir sur la résistance aux antibiotiques. Je ne sais pas si ma question va être bien posée ou pas, si vous allez la comprendre. J'imagine que quelqu'un qui a pris sur la longue durée des antibiotiques sera plus résistant à ces mêmes antibiotiques que quelqu'un qui n'en a jamais pris, par exemple. Voilà. Et si c'est le cas, si cette personne qui a pris pendant un certain temps des antibiotiques arrêtait, par exemple, d'en prendre pendant plusieurs années, est-ce que ce serait aussi le cas, est-ce qu'il serait plus résistant, au moins, voilà. Enfin, est-ce que vous avez compris ma question?
Les deux questions en général, tout à fait. Alors effectivement, la prise prolongée des antibiotiques, surtout si elle est mal utilisée, c'est-à-dire par exemple pas aux bonnes heures, pas à la bonne posologie et pas à la bonne indication, est un des facteurs principaux de résistance aux antibiotiques. Il y a très peu de maladies, en dehors par exemple de la tuberculose, certaines maladies particulières, où les antibiothérapies doivent être prolongées à 10-15 jours. Très très peu de maladies. On est maintenant sur des durées d'antibiotiques très courtes. En revanche, l'homme est remarquablement bien fait. On hyperge ce qu'on appelle un microbiote, c'est-à-dire une masse de germes qui est phénoménale. Et il faut savoir que les bactéries qui deviennent résistantes sont résistantes aux antibiotiques, mais sont plutôt moins vaillantes globalement que certaines bactéries, elles finissent par perdre le combat par rapport aux autres bactéries. Au bout de plusieurs années, on voit effectivement réapparaître une flore normale. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si vraiment on continue trop longtemps, on finit par bousiller complètement ce qu'on appelle son microbiote. Au point que, par exemple, dans certaines infections... Alors, il faut savoir aussi que la sélection de germes par des bactéries, pardon, par des antibiotiques, peut entraîner d'autres maladies infectieuses, par exemple une diarrhée, un truc assez grave qui s'appelle la diarrhée Clostridium difficile, et on est parfois amené à faire ce qu'on appelle des greffes fécales, c'est-à-dire de purger le tube digestif pour remettre une flore fécale issue d'un donneur sans résistance. Donc on arrive sur des tableaux dans lesquels on ne devrait pas arriver, en fait, effectivement, mais ça, c'est un problème. Et puis, Jules, le problème de la résistance est important. Je veux dire, revenez d'Inde, allez aux urgences et ils vont vous mettre dans un box à part avec des masques, des blouses, etc. Enfin bref. Donc oui, la nature est bien faite, mais à condition de ne pas trop la martyriser. On a le même problème avec le réchauffement climatique. Si on arrêtait de mettre de l'oxyde de carbone partout dans l'air, on verrait probablement les choses s'améliorer partiellement.
Il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? Trois, deux, un. Merci, messieurs.
Merci. Merci beaucoup.
Je vais vous... Donc vous pouvez retrouver la conférence enregistrée si vous avez besoin de la réécouter. Le prochain pôle InfoSanté aura lieu le 9 avril à 18h30 ici même sur l'endométriose avec la participation de l'association Endo France et notamment du professeur Xavier Fritel qui est le référent national en la matière et qui va parler des endométrioses puisque il y en a plusieurs pour lui en tout cas. Merci beaucoup, vous pouvez nous laisser vos remarques sur papier à la sortie.